Merci Mathieu. Bonjour à tous ceux que j'ai pas vus encore ce matin. Et donc, j'ai le lourd privilège de vous aider à méditer la parole de Dieu en ce jour de baptême. Alors, le titre du message, c'est en fait un titre qui a été choisi en commun parce que nous avions choisi de faire une série de prédications autour de la parole. Et on aborde ce matin le dernier épisode de cette série de 5 messages. Petit rappel, on a d'abord lu Matthieu 4, verset 4 et Matthieu 7, verset 24 à 29. Ces versets nous ont encouragés à fonder nos vies, nos choix, notre quotidien sur la parole de Dieu. C'est une nourriture solide qui nous aide à rester en forme et à grandir. Josué 1, versets 1 à 9. Je ne sais pas si vous vous souvenez que Josué était venu nous rendre visite d'ailleurs à cette occasion. En tout cas, il nous a rappelé d'entretenir notre proximité personnelle avec la parole. Colossiens 3, 16 nous a présenté une communauté, notre communauté qui habitait à tous les niveaux par la parole de Dieu. Et puis la semaine dernière, avec Hébreux 4, 12, Philippe nous a proposé de vivre de la parole de Dieu si puissante, telle une arme efficace qui nous transperce jusqu'au plus profond de nous-mêmes, afin de pouvoir mettre la puissance de Dieu en action dans notre service. Alors aujourd'hui, on termine avec 4 versets de la deuxième épître de Paul à Timothée. Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Alors, c'est vrai que si on veut repérer un pays ou une région particulière de notre monde, on se sert d'un atlas. Si on veut savoir comment fonctionne un moteur à explosion, on prend un manuel écrit par quelqu'un qui possède cette connaissance. Avec cette même logique, lorsque je veux comprendre ce que Dieu demande, ce qu'il fait, ce qui lui plaît, je prends la Bible afin d'être informé de tout cela. Ça paraît simple et évident. Pourtant, qui le fait encore de nos jours ? Lire ? Quelle occupation ennuyeuse pour nombre de personnes ! Certains préfèrent regarder des reportages à la télévision ou sur Internet pour comprendre. Mais alors je me pose une question. Où est-ce qu'on trouve des reportages de la Bible ? D'autres préfèrent se tourner vers des conférences, en live, comme on dit, ou à nouveau sur Internet. Mais à ce moment-là, comment être certain que ce qu'on entend vient bien d'une bonne compréhension de la parole de Dieu ? Lorsque je travaillais dans une librairie chrétienne à Strasbourg, j'ai rencontré des personnes qui étaient sûres qu'elles avaient tout compris et que c'était les autres qui se trompaient. Et cela en opposition totale avec des théologiens reconnus par toute la chrétienté. Elles argumentaient et tout. Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai entendu parce que ça serait trop long, on pourrait écrire tout un roman, mais des fois c'était vraiment affligeant. Et j'ai même trouvé la citation d'un publicitaire contemporain qui a écrit « Les règlements, c'est comme la Bible. Tout le monde pense les connaître, mais personne ne les lit. » On peut avoir une opinion sur la Bible sans la connaître. Alors vous, qui vous a appris ce que vous savez du texte biblique ? Comment est-ce que vous êtes certain que c'est bien la parole de Dieu ? Et finalement, pourquoi est-ce nécessaire de si bien connaître cette parole plus que tout autre enseignement ? Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour ma part, je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne. J'ai exprès choisi cette image parce qu'il y a bien les quatre enfants, et nous étions quatre. Au contraire, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à Dieu et à la Bible, mon père m'a interdit d'en parler à la maison. Sinon, il me mettait à la porte. Il ne voulait pas entendre parler chez lui de ce Dieu que l'on présentait comme bon et qui pourtant ne faisait rien pour le bonheur des hommes et des femmes sur cette terre. Enfant, il avait fréquenté les classes de catéchisme à l'Église catholique, mais adulte, il avait rejeté tout ce qui lui avait été enseigné, en voyant combien les humains se comportaient, mais vraiment à l'opposé de ce qu'ils enseignaient, et sans même que Dieu semble s'en préoccuper. Alors ça signifie aussi que, pour ma part, je n'ai pas appris les Saintes Écritures depuis mon enfance. En tout cas, pas de la façon dont le jeune Timothée a été enseigné. Est-ce que vous vous souvenez de ces personnes qui ont enseigné Timothée ? Est-ce que quelqu'un connaît la référence ? C'est dit dans la Bible. C'est sa grand-mère Loïs et sa mère Eunice qui sont citées en 2 Timothée 1,5, donc au début de l'épître que nous étudions aujourd'hui. Alors j'ai eu la curiosité de chercher ce que signifient ces prénoms parce que ça ne ressemble pas à des prénoms hébraïques. Ce sont les Hébreux qui enseignent leurs enfants dans la Torah. Et effectivement, ce sont des prénoms d'origine grecque. Alors on pourrait s'étonner qu'elles enseignent leurs enfants, mais en fait, si on regarde dans la Bible, si on feuillette un peu justement dans tout ce grand livre, dans Actes 16:1, il est écrit que c'était des femmes d'origine juive et qui se sont mariées en Grèce. Donc elles possédaient la connaissance de la parole de Dieu, c'est-à-dire de l'Ancien Testament. Et c'est sans doute pour cela, pour cette foi profonde, que Nice a donné à son fils le nom de Timothée. Parce que là encore, j'ai cherché qu'est-ce que ça signifie, Timothée. J'ai vécu une bonne partie de ma vie au Cameroun et tous les noms qu'on donne aux enfants ont une signification. Donc quand je vois un nom dans la Bible, je cherche ce qu'il peut signifier. Et Timothée, ça vient du grec ancien Timao, qui dit honoré, et de Théos, Dieu. Donc Timothée, c'est celui qui honore Dieu. C'est pas rien quand même d'appeler son enfant comme ça. Et ces deux femmes dont Paul nous rappelle le souvenir nous montrent bien qu'il ne faut pas hésiter à parler de Dieu aux enfants. Et peut-être que, comme moi, ce verset bien connu vous est venu à l'esprit. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en dévira pas. Alors certains parents se croient incompétents pour parler de Dieu à leurs enfants. Mais ces deux femmes aimantes nous montrent le contraire. Pas besoin d'être pasteur, d'avoir fait des études de théologie pour le faire. Il y en a qui disent non, c'est juste au club biblique jeunesse parce que eux, ils savent, ils sont formés, moi je ne sais pas. Mais non, c'est faux. Et puis, on a tellement de livres et de matériel adaptés aux enfants à notre époque. Après, on peut se demander à quel âge on va leur parler. Quand on nous dit dans le texte biblique que Timothée a appris depuis son enfance, à l'époque, on commençait à 5 ans à enseigner les enfants. Mais rien n'interdit de commencer avant. Ce matin, Adélia a confessé devant nous sa foi en Jésus-Christ, son Sauveur et Seigneur. Elle a souhaité passer par les eaux du baptême pour en témoigner publiquement. Depuis son enfance, elle aussi a entendu la parole de Dieu au sein d'une famille que nous connaissons bien. Il ne savait pas que j'allais montrer la photo. Mais voilà. Et finalement, cette parole a agi dans sa vie. Elle suit maintenant, comme beaucoup d'autres, l'exemple du jeune Timothée. Maintenant, c'est son choix à elle de suivre Jésus. Elle a entendu dans sa famille, mais elle a dû décider elle-même. Mais parfois, nos enfants ne se laissent pas interpeller par cette parole. Ils choisissent de prendre un autre chemin. C'est ce que Adélia a failli faire. Et Paul avait conscience que Timothée lui aussi pouvait laisser tomber. C'est pourquoi il l'encourage. Rappelez-vous le verset 14. « Reste attaché à ce que tu as entendu depuis ton enfance. » D'autres traductions nous disent « Demeure dans les choses » ou bien « Tiens ferme ». Oui, nous avons besoin d'être encouragés, d'avoir près de nous des personnes qui nous inviteront ou qui nous aideront à rester sur le bon chemin. Et ce n'est pas facile, parce que le monde autour de nous nous sollicite pour nous pousser à aller dans d'autres directions. Le diable veut nous détourner de la foi. Paul déclare à Timothée « Reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction ». Remarquez que le verbe, il est au passé, ce que tu as appris, ce n'est pas ce que tu apprends maintenant. Et c'est peut-être comme si Timothée avait été certain un jour de ce qu'il entendait, mais qu'il n'en est peut-être plus aussi sûr maintenant. Peut-être qu'il avait vacillé de temps à autre. Alors Paul le ramène vers cette assurance passée. Il en est de même pour nous. Si nous restons attachés à ce que nous avons déjà appris dans la parole de Dieu, nos doutes s'envoleront. Voyez comme Paul recommande fortement à Timothée d'y tenir fermement. Rien n'est considéré comme allant de soi. Rien n'est plus loin de la pensée de Paul qu'une attitude qui dirait « Évidemment, nous sommes tous fondés sur la Bible, nous n'avons plus besoin de revenir sur ce point, nous pouvons passer à autre chose ». Paul n'a jamais considéré que cela allait de soi, pas même avec son protégé Timothée en qui il avait confiance. Non, sans cesse, il l'encourage pour qu'il ne dévie pas. Alors ce matin, Adélia n'était pas seule à passer par les eaux du baptême, bien sûr, il y avait aussi Séou qui a confessé sa foi en Jésus-Christ. Et toutes les deux ont reconnu ce que Paul affirme au verset 16. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Alors cette formulation, toute l'Écriture, nous conduit à réfléchir de quoi nous parlons. À l'époque de Paul, ce qui était considéré comme la parole de Dieu, c'était l'Ancien Testament. C'était la Torah. Il y avait le Pentateuque, c'est-à-dire les cinq premiers livres de notre Bible actuelle, les livres de la loi. Mais il y avait aussi les psaumes, les proverbes et les écrits des prophètes. Après la venue de Jésus-Christ, les évangiles et les épîtres écrites par les apôtres prennent leur place dans ce que nous appelons maintenant la Bible. Nos deux sœurs ont reçu un exemplaire et je vous encourage, il y a la même là sur le pupitre. J'ai vu que c'était la même que vous aviez reçue. Donc, du coup, je suis perdue. Nous pouvons nous y plonger, nous pouvons la lire et la méditer. Mais ce verset nous invite à pas seulement avoir nos textes préférés que nous lisons et relisons avec délectation. Toute l'Écriture. Nous pouvons chercher la volonté, la pensée de Dieu dans toute cette Écriture. Il y a les textes qui nous paraissent incompréhensibles, alors nous ne les lisons pas ou nous ne les lisons plus. J'ai parfois entendu certaines personnes me dire qu'elles évitent de lire l'Apocalypse parce que ça fait peur et c'est trop compliqué à comprendre de toute façon. D'autres textes nous semblent tellement éloignés de nos préoccupations modernes. Alors, pourquoi perdre du temps avec ? Qui ne s'est pas endormi sur le livre des Chroniques ? J'avoue que ce n'est pas celui que je lis le plus régulièrement, moi non plus. Mais Paul nous affirme ici que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Alors ne faisons pas l'impasse sur certaines lectures. Nous pourrions être divinement surpris par une parole que Dieu aurait mis là de côté pour nous. Alors, il serait intéressant de décortiquer complètement ce texte, parce que certains mettent en doute la suite du verset. Inspiré par Dieu. Ils prennent pour preuve que pour beaucoup de livres de la Bible, les auteurs sont connus et justement ce sont des hommes. Alors pourquoi tel ou tel homme aurait-il écrit sous l'inspiration de Dieu plus que tel autre ? Mais le débat dépasse le cadre de la simple prédication d'aujourd'hui. Et si le sujet vous intéresse, je vous encourage à vous documenter dessus. Je pourrais aussi vous donner quelques pistes. Alors, ce débat sur l'inspiration des Écritures existe parce qu'il permet de contester l'autorité de Dieu. Si l'Écriture n'est pas inspirée de Dieu dans sa totalité, alors pourquoi s'y soumettre ? Et j'ai trouvé ce commentaire d'Alain Isus dans son livre « Pour une foi réfléchie ». Je vais vous y laisser réfléchir aussi et je vous vais mettre l'illustration qui accompagnait la déclaration que je vais vous lire. Devenu son propre maître, l'homme essaye tant bien que mal de construire sa vérité en puisant à droite et à gauche suivant son jugement. Évidemment, ce rejet concerne aussi l'autorité biblique. L'Écriture peut dire vrai, mais aussi se tromper. Et surtout, elle n'est plus la seule à proposer des enseignements utiles pour orienter notre vie. Sans être forcément aussi frontal, le refus de l'autorité biblique peut prendre des formes plus subtiles qui nous concernent tous. Il peut s'agir, par exemple, de situations où l'on laisse des commandements explicites de côté, consciemment ou non. Il faut pardonner, mais nous ne pardonnons pas. Nous savons la médisance destructrice, mais nous médisons. Nous laissons nos pensées se perdre dans des zones troubles. Chaque fois que nous n'obéissons pas à la volonté de Dieu dans un domaine de notre vie, pensée, parole, acte, gestion de nos biens, sexualité, relations, etc., nous rejetons en pratique l'autorité de la parole de Dieu. Fin de citation. Parce que le monde change autour de nous, évolue, nous intégrons les façons de penser du monde à notre façon de lire la Bible, de recevoir la parole inspirée de Dieu, et parfois nous nous laissons détourner de ce que cette parole nous dit. Alors que Dieu nous a laissé une lettre d'amour pour nous mener vers le bonheur, pour nous accompagner jusque dans la vie éternelle, nous ne la comprenons parfois que comme une liste de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, et nous la recevons comme un fardeau. Paul nous dit que l'Écriture est utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. C'est ce que nous avons déjà compris la semaine passée avec la prédication de Philippe sur l'Épître aux Hébreux. La parole de Dieu est une épée à double tranchant qui pénètre jusqu'au plus profond de l'être. Elle nous enseigne, bien sûr, mais elle nous redresse aussi. Elle nous nettoie afin de nous rendre plus conformes à ce que Dieu veut faire briller en nous, parce que cela est pour notre bien. J'ai trouvé une autre citation, et celle-là, elle est de Duke Ellington. Vous avez quand même déjà entendu parler de lui. Il a dit « J'ai eu trois éducations. La rue, l'école, la Bible. » C'est finalement la Bible qui compte le plus. C'est l'unique livre que nous devrions posséder. Alors oui, la Bible nous enseigne. Et parfois, avec le temps, nous nous sommes un peu éloignés de tout ce que nous avions découvert, émerveillés dans la parole de Dieu au moment de notre conversion. Recevons donc tout à nouveau cette exhortation du livre de l'Apocalypse adressée à l'église d'Éphèse. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Alors, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Le verset 17 de notre texte ce matin nous rappelle qu'en restant attachés à cette parole de Dieu qui nous enseigne et nous apprend à mener une vie conforme, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. J'avoue que ça m'a un peu dérangée quand j'ai lu ça. L'homme de Dieu. Est-ce que ce texte est écrit par Paul uniquement à destination de ceux qu'on appelle les hommes de Dieu? Bien sûr, il peut vouloir ainsi apostropher Timothée. Mais les hommes de Dieu, dans notre inconscient collectif, ce sont les prêtres, les pasteurs. Alors, ce que Paul a écrit à Timothée, ça ne me concerne pas, puisque je suis une femme. Alors, pourquoi est-ce qu'on a laissé ça, cette épître, dans le canon biblique? Pourquoi est-ce que les pères de l'Église l'ont conservée si elle ne s'adresse pas à tout le commun des mortels? Comme à mon habitude, j'ai consulté des commentaires pour mieux comprendre cette formulation et je me suis rendu compte que, eh ben oui, le féminisme ambiant m'a fait réagir épidermiquement. Parce que, en fait, l'homme de Dieu dont il est question, tout comme Timothée, c'est le chrétien, c'est celui ou celle qui a confié sa vie au Seigneur et qui a décidé de marcher à sa suite. Pour ne pas trébucher, pour être un témoin efficace, cet enfant de Dieu a besoin de connaître la parole intimement. Ainsi, il peut accomplir toute œuvre bonne. Mais c'est quoi toute œuvre bonne ? Ouais, ça peut être prêter son parapluie pour abriter quelqu'un. Mais est-ce qu'il y a un catalogue des tâches à accomplir ? Et si on consulte la parole de Dieu, alors on a tout le catalogue et on sait tout ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a une école qui peut nous préparer à ça ? À savoir, qu'est-ce que ce sont toutes ces œuvres bonnes ? Alors hier, on avait une discussion avec Simon et Malena sur le fait de se sentir appelé à œuvrer dans tel ou tel domaine. Pour Simon, je ne pense pas trahir un secret, il se sent vraiment appelé à aller vers les SDF, les prisonniers, les malades. Et il l'envisage avec joie, parce que ce n'est pas un fardeau pour lui d'aller vers ces personnes abîmées par la vie. Pour y aller, il a besoin de bien connaître la parole de Dieu pour aller dans la bonne direction. Donc, il la médite constamment. Et Hervé et moi, nous avons pu partager de notre côté que c'était aussi parfois gênant lorsque des frères et sœurs nous encensaient parce que nous étions missionnaires et que nous faisions tellement de sacrifices pour aller vivre au Cameroun et partager la parole de Dieu avec d'autres. Nous, on était contents de servir Dieu de cette façon parce que la vie là-bas nous plaisait vraiment. Elle plaisait à nos enfants. Nous ne voyons pas cela comme un sacrifice, mais comme une bénédiction que Dieu nous envoie là où nous nous sentions tellement à l'aise. Ce qui était important, c'était de connaître la parole de Dieu pour pouvoir la vivre et la partager avec d'autres. Et du coup, les bonnes œuvres, est-ce que c'est chercher absolument à faire des efforts, des choses compliquées, des choses difficiles pour plaire à Dieu ? Non, je retire de ces réflexions que c'est se laisser conduire par Dieu, qui est un Dieu d'amour et qui nous conduit vers des choses que nous avons de la joie à accomplir. Et ce qui est important, c'est de nous laisser enseigner par Dieu, afin qu'il nous envoie là où nous pouvons lui être utiles, où nous pouvons être utiles. Alors, si nous avions continué à lire le texte, Timothée, chapitre 4, nous aurions vu que Paul encourage Timothée à parler en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, et qu'il le met en garde contre tous ceux qui chercheront à transformer l'enseignement véritable pour se faire plaisir et assouvir leur passion, pour faire face à ceux qui veulent déformer, arranger, inventer un enseignement. Nous devons connaître les Écritures et nous y attacher afin de ne pas être détournés et remplir le ministère que Dieu confie à chacun. Il parle ainsi à chacun d'entre nous si nous savons l'écouter et le comprendre pour nous préparer aux circonstances particulières qui nous attendent dans notre vie de service. Voilà. Ce matin, Adélia et Séou et Adélia, ont déclaré publiquement vouloir suivre Jésus-Christ, leur Sauveur et Seigneur, en passant par les eaux du baptême. Elles ont besoin de rester attachées à l'enseignement qu'elles ont déjà reçu pour mener à bien leur vie en tant que chrétiennes. Elles ont besoin que nous restions attachés à l'enseignement pour les entourer et les aider à vivre leur vie en tant que chrétiennes. Et elles ont besoin que nous restions attachés à l'enseignement que nous avons reçu pour vivre en tant que chrétiens et leur servir de modèle afin de ne pas se détourner de la foi. C'est à cette œuvre bonne que nous sommes aussi appelés aujourd'hui. Amen.